VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 25 février 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations. Les forces ukrainiennes combattent aujourd'hui des militaires russes dans la capitale Kiev. Vladimir Poutine a appelé l'armée ukrainienne à prendre le pouvoir. Les 27 pays de l'Union européenne ont trouvé un accord pour sanctionner Vladimir Poutine et le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Le gouvernement sénégalais suit de très près la situation car une centaine de Sénégalais habitent l'Ukraine. Crise malienne, le médiateur Goodluck Jonathan quitte Bamako sans date pour la tenue des élections. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Eh bien, les forces de la Russie resserrent leur étau autour de Kiev avec des affrontements aujourd'hui et aux abords de la capitale de l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky accuse l'armée russe de bombarder des quartiers civils. Le point tout de suite avec Jacques Aristide.
Les troupes russes, déployées au sol, avancent désormais sur plusieurs axes de pénétration du nord, de l'est et du sud de l'Ukraine, alors que de premiers combats ont éclaté à Kiev aujourd'hui. La capitale, qui ressemble à une ville fantôme, s'est réveillée dans la destruction après des bombardements en pleine nuit. Le chef de l'État ukrainien appelle les Européens aguerris à venir combattre l'armée russe. Volodymyr Zelensky reproche à leurs dirigeants une réponse trop lente face à l'invasion de Moscou. Son homologue russe Vladimir Poutine, qui se dit prêt à des pourparlers avec l'Ukraine, demande toutefois aux militaires ukrainiens de prendre le pouvoir à Kiev en renversant Volodymyr Zelensky et son entourage, qu'il qualifie de néo-nazis et de drogués. Son chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, affirme que l'objectif de l'invasion est de libérer les Ukrainiens de l'oppression. L'Union européenne indique qu'elle va sévèrement sanctionner Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov pour leur responsabilité dans l'invasion de l'Ukraine. Un dernier bilan fait état de morts et de blessés, à la fois côté russe et ukrainien, mais les pertes humaines et matérielles sont difficiles à confirmer. L'ONU, pour sa part, indique que les carburants, l'argent liquide et les équipements médicaux commencent à manquer en Ukraine. Selon elle, jusqu'à 5 millions de personnes seront contraintes à se réfugier à l'étranger.
Et donc les carburants, l'argent liquide et les équipements médicaux commencent à manquer dans certaines régions d'Ukraine après l'invasion du pays par l'armée russe qui pourrait contraindre jusqu'à 5 millions, vous l'avez dit Jacques, 5 millions de personnes à se réfugier à l'étranger. Au moins 100 000 personnes ont déjà dû fuir leur domicile et plusieurs milliers sont passés dans un pays voisin comme la Moldavie, la Roumanie ou la Pologne, a déclaré Shabia Mantou, le porte-parole de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, lors d'un point de presse aujourd'hui à Genève. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir à 20h GMT pour voter sur un projet de résolution des États-Unis et de l'Albanie condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et lui réclamant un retrait immédiat de ses troupes, un texte voué à l'échec en raison du droit de veto de Moscou. Devant l'avancée des troupes russes en Ukraine, l'Union européenne a annoncé des sanctions sévères. Une position partagée par le Premier ministre britannique Boris Johnson et ses alliés d'Europe du Nord. Claire Morin-Gibou.
Annalena Baerbock, chef de la diplomatie allemande, a annoncé à Bruxelles que l'Union européenne va sévèrement sanctionner le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov pour leur responsabilité dans l'invasion de l'Ukraine. Nous frappons le système Poutine là où il doit être frappé, non seulement sur le plan économique et financier, mais aussi au cœur de son pouvoir, a-t-elle dit. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et ses alliés des pays baltes d'Europe du Nord ont eux aussi convenu que plus de sanctions sont nécessaires contre Moscou. Toutefois, Londres a exclu tout envoi de soldats en Ukraine, mais s'est dit prêt à fournir des armes défensives. Enfin, le président sud-africain Cyril Ramaphosa annonce qu'il va engager des discussions avec la Russie et les États-Unis. Il a regretté que le Conseil de sécurité de l'ONU ne s'engage pas davantage dans le processus pour que cette guerre puisse cesser.
De nombreux étudiants africains vivent en Ukraine. Le Sénégal suit de près la situation. Abdourahmane Dia a joint Moïse Sarr, le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, qui nous parle ici de la situation des Sénégalais vivant en Ukraine et des mesures prises par Dakar pour les assister.
C'est une situation que nous suivons avec une attention toute particulière depuis le début. Et le ministère des étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, via notre ambassade qui se trouve en Pologne, parce que l'Ukraine est rattachée à notre ambassade qui est en Pologne, a pris le devant, a anticipé, en quoi faisant, en mettant en place et mis en avant les bombardements, une cellule de crise sous l'autorité de M. l'ambassadeur du Sénégal. Nous avions déjà un fichier de compatriotes résidents en Ukraine. Donc ce fichier a été mis à jour et ça nous a permis aujourd'hui d'avoir une cartographie plus ou moins exhaustive
et
de nos compatriotes. Actuellement, ils sont moins de 100 personnes, mais nous avons demandé aussi à l'association et au point FOCO d'être attentifs et que tous ces Sénégalais qui se présenteraient à eux par téléphone ou via les réseaux, qu'ils puissent être recensés et communiquer directement à la cellule. Mais actuellement, ils sont moins de 100 personnes, je dirais une centaine.
Alors, donc, pour vous, le mot d'ordre, c'est de rester là où ils sont, en sécurité, plutôt que de chercher à quitter le pays.
Vous savez, comme je l'ai dit, si la situation permet de pouvoir se déplacer en toute sécurité, ou bien si les autorités ukrainiennes ouvrent un boulevard qui permet peut-être d'aller dans d'autres pays, comme c'est le cas pour le moment de la Pologne. Là, il y a 8 postes frontaliers qui ont été ouverts sur à ce stade. Nous pouvons effectivement recommander à ces compatriotes de pouvoir faire le déplacement, mais pas peut-être de manière solitaire, parce qu'ils sont étrangers dans ce pays, mais toujours en prenant le soin d'être parmi des Ukrainiens ou d'autres nationalités et en s'assurant le minimum de sécurité suivant les recommandations et les décisions qui sont prises au fur et à mesure par les autorités ukrainiennes.
D'accord. Et pour terminer, un mot pour les familles de ces Sénégalais, leurs familles au Sénégal.
Les familles, c'est effectivement les rassurer. C'est vrai, c'est difficile. C'est vrai, effectivement, c'est une situation aussi qui est vraiment, vraiment difficile, il faut le dire. Mais c'est de le demander aussi et de le dire naturellement que nous compatissons. C'est effectivement de le dire que le chef de l'État a insulté Madame le ministre des Affaires étrangères et le Sénégal extérieur et tout le gouvernement du Sénégal pour que toutes les dispositions utiles et nécessaires soient prises en charge et en compte de manière à pouvoir, et rapidement, mais en relation avec les autorités compétentes, et la protection, mais également le secours qui s'est apporté à ses compatriotes.
Voilà, c'était Moïse Sarr, secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité ici aux États-Unis, le président américain Joe Biden a nommé aujourd'hui la juge fédérale Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême où elle deviendra la première femme noire à siéger. L'annonce de la nomination retardée en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie devrait déclencher une bataille pour sa confirmation au sein d'un Sénat très divisé. À 51 ans, Ketanji Brown Jackson sera la sixième femme à siéger au sein de la plus haute instance des États-Unis où les juges sont nommés à vie. Sur les 115 personnes qui ont siégé à la Cour suprême des États-Unis, seuls 2 étaient noirs et il s'agissait de 2 hommes. L'actualité africaine, le Nigérian Goodluck Jonathan, médiateur de la CDAO pour le Mali, a quitté Bamako après 2 jours de discussion avec la junte sans avoir pu obtenir d'accord sur une date pour les élections. Le point avec John Nidon.
Le séjour de la délégation est terminé, mais elle n'est pas revenue avec un calendrier électoral, a dit à l'AFP un diplomate de la CDAO qui a requis l'anonymat. La délégation est repartie vers Accra pour rendre compte au président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CDAO. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a confirmé qu'ils n'ont pas donné de date pour les élections, mais que l'ambiance de travail était très bonne et les discussions vont se poursuivre. L'ancien président nigérian, qui s'est entretenu jeudi et vendredi avec plusieurs responsables de la junte malienne, dont le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a promis jeudi soir de continuer la conversation avec les Maliens. Le médiateur avait appelé à une transition démocratique dans les plus brefs délais au lendemain de l'approbation d'un plan permettant à la junte militaire de rester au pouvoir pendant 5 ans.
Merci John. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Rosine Monezero.
Au Sénégal, le président Macky Sall a décidé hier de baisser les prix des denrées de première nécessité. Le litre d'huile passe de 1200 à 1100 francs CFA. Le sac de riz brisé non parfumé de 50 kilos est vendu à 13 750 francs CFA, alors qu'auparavant il était à 15 000 francs CFA. Le kilo de sucre passe de 625 à 600 francs CFA. Enfin, pour soutenir la production locale de riz, le gouvernement accorde une subvention de 32 francs CFA sur le kilo de riz padi, portant le prix au producteur à 162 francs CFA le kilo. Toutes mesures vont coûter près de 50 milliards de francs CFA par an au budget de l'État sénégalais. Au Cameroun, les prix à la consommation finale des ménages dans la ville de Douala ont progressé de 2,9% en janvier, selon un rapport de l'Institut national de la statistique, rapporte l'agence Ecofin. Cette hausse des prix sur un an résulte surtout de la progression des prix des produits alimentaires, ainsi que ceux des restaurants et hôtels, comme le mois dernier, car le pays a abrité la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les bourses mondiales ont rebondi vendredi après les lourdes pertes à la suite des sanctions économiques contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine. Les cours du pétrole se stabilisent vendredi après une hausse fulgurante la veille. Le baril du Brent reculait sous la barre des 100 dollars à 99,27 dollars, loin du pic à 105 dollars la veille.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Cyclisme pour commencer. La situation dans son pays n'a pas touché son moral. L'Ukrainien Anatoly Boudiak a enlevé à Kigali la 5e étape du Tour du Rwanda. Boudiak, un Ukrainien de 26 ans qui court pour l'équipe malaisienne de Terengganu, a enlevé le premier succès de sa carrière. L'Érythréen Nathanael Tesfazion, vainqueur du Tour du Rwanda en 2020, a pris la 2e place de l'étape et a endossé le maillot des leaders que portait l'Espagnol Angel Madrazo. Demain samedi, la 6e et avant-dernière étape longue de 152 km se termine par l'ascension du Mont Kigali, 5,9 km. Football, les fédérations de football du Kenya et du Zimbabwe ont été suspendues par la FIFA. L'instance mondiale évoque des interférences gouvernementales. Gianni Infantino, président de la FIFA.
We had to suspend two of our member associations, Kenya and Zimbabwe.
Nous avons dû suspendre deux de nos associations membres, le Kenya et le Zimbabwe, toutes deux pour ingérence du gouvernement dans des activités de l'association de football. Ces associations sont donc suspendues de toute activité footballistique avec effet immédiat. Elles savent ce qu'il faut faire pour être réadmises ou pour que la suspension soit levée.
Les présidents des fédérations kenyan Nick Mwendawa et zimbabwéen Felton Kamambo ont tous deux démissionné sous pression des autorités de leur pays qui ont mis en place des structures provisoires sans l'aval de la FIFA. L'invasion russe de l'Ukraine a des conséquences sportives majeures. Le monde du sport dans son ensemble condamne cette invasion et les sanctions n'ont pas tardé. La finale de la Ligue des champions ne se jouera plus dans la ville russe de Saint-Pétersbourg. L'UEFA a annoncé que ce match prévu le 28 mai prochain a été déplacé au Stade de France près de Paris. Autre décision prise par l'instance, l'organisation sur terrain neutre des matchs internationaux à domicile des clubs ou sélections ukrainiens et russes jusqu'à nouvel ordre. Cela concerne le Spartak Moscou en lice en Ligue Europa ou le match des espoirs français en Ukraine. Le 29 mars, le président de la Fédération russe de football, Alexandre Djoukov, dénonce une décision dictée par des motifs politiques. De son côté, le club anglais du Manchester United dit avoir révoqué son contrat de sponsoring avec la compagnie aérienne russe Aeroflot. Idem pour la formation allemande de Schalke qui a décidé de retirer de ses maillots son sponsor officiel russe Gazprom. Le Grand Prix de Russie de Formule 1, prévu le 25 septembre à Sotchi, a été aussi annulé. Le Comité international olympique a exhorté toutes les fédérations sportives internationales à annuler ou à délocaliser tout événement prévu en Russie ou au Bélarus.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au deuxième jour de l'invasion russe de l'Ukraine, des combats sont signalés dans les rues de Kiev, la capitale. Les Européens ont décidé de sanctionner Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, par un gel de leurs avoirs dans l'Union européenne. Ceci après une série de mesures annoncées hier par le président américain Joe Biden visant les exportations et le secteur bancaire russe. Pour une analyse sur les effets de cette crise en Europe, Abdourahman Dia a joint à Paris Marie Dumoulin, directrice du programme Europe élargie au Centre de réflexion European Council on Foreign Relations.
Alors, il est vrai que les Européens de l'Est sont très inquiets de ce qui se passe à leurs frontières en Ukraine, notamment parce que depuis le début de la crise, Vladimir Poutine a laissé entendre que son problème était avec l'OTAN, et notamment avec les élargissements successifs de l'OTAN depuis 1997. Et donc, certains dans ces pays craignent évidemment qu'après l'Ukraine, Vladimir Poutine ne soit tenté de s'en prendre à leur pays. Et puis par ailleurs, le conflit en Ukraine est vraiment à leur porte et donc ils seront très directement concernés par les conséquences de ce conflit qui peut évidemment déborder. On le voit déjà avec l'arrivée de réfugiés dans un certain nombre de pays.
Alors, pour ce qui est des Occidentaux, est-ce qu'ils pourront continuer à parler d'une seule voix si ce conflit perdure avec des intérêts économiques divergents? On pense notamment à l'Allemagne et à l'Italie.
Jusqu'à présent, les pays européens et occidentaux plus généralement ont réussi à maintenir leur unité. C'était un enjeu fondamental dans cette crise de montrer à Vladimir Poutine qu'il avait en face de lui un front uni. En lançant une opération militaire de grande envergure sur l'Ukraine, je crois que Vladimir Poutine finalement aide les Européens à maintenir cette unité parce que la menace est évidente venant de quelqu'un qui est capable de lancer ce type d'opération. Donc je ne me fais pas trop de soucis sur l'unité européenne et en ce qui concerne les éventuels intérêts économiques de tel ou tel pays, je crois que in fine, l'enjeu de l'unité des Occidentaux prévaudra sur les préoccupations économiques.
Mais la dépendance un peu de l'Allemagne au gaz russe, notamment avec le projet Nord Stream 2, c'est peut-être un sujet de préoccupation quant à l'unité des Européens à long terme, non?
Les Allemands ont déjà très clairement annoncé que le projet Nord Stream 2 était mis en suspens et qu'il ne serait pas mis en service. Et il y a des réflexions entre Européens sur la manière de diversifier les approvisionnements énergétiques. Il y a aussi un effort à faire sur l'accélération de la transition vers des énergies non carbonées, puisque à partir du moment où on aurait des sources d'énergie renouvelables, le gaz russe serait évidemment moins pertinent.
D'accord. Et qu'en est-il de l'efficacité des sanctions ?
C'est sur le long terme que l'effet de ces sanctions se fera sentir, et notamment l'effet des sanctions économiques qui va avoir un impact sur l'économie russe.
C'était Marie Dumoulin, jointe à Paris. La guerre en Ukraine est aussi un coup dur pour les communautés étrangères, y compris africaines, qui vivent dans ce pays. Leurs familles, amis et connaissances se trouvant hors de l'Ukraine n'en sont pas moins inquiets. Mouamadou Mfa a recueilli le sentiment de Makan Sako, un Malien, ancien étudiant à Kiev, où il a vécu pendant 8 ans.
Je suis concerné, mais je ne suis pas surpris pour cette invasion. Les Russes ne vont jamais concevoir que l'Ukraine même soit un pays allié à l'Occident. Parce que les Russes pensent que Kiev est un Maskarado Parafia. Ça veut dire que Kiev, c'est la mère des villes russes. La grandeur même de la Russie, c'est partie de Kiev, c'est un russe. Leur grandeur est partie de là. L'Ukraine, c'est spécial, très, très spécial pour eux.
Vous qui avez longtemps vécu en Ukraine, comment la Russie est perçue là-bas?
Bon, Moi, j'ai connu les Ukrainiens nationalistes qui sont de la partie de Lvov, qui était une partie de la Pologne. Effectivement, ils pensent qu'ils ont été annexés et ils n'ont pas une bonne opinion de la Russie. Ça, c'est à l'ouest de l'Ukraine. Mais l'est de l'Ukraine, de Donbass, la partie de Donetsk, Kharkov, Odessa, tout ça, c'est russophile. Hein. On ne parle que russe là-bas. Donc, je pense que l'Ukraine a vraiment intérêt à coopérer avec la Russie. Et tout le monde a intérêt aujourd'hui à coopérer avec la Russie. Surtout l'Europe occidentale.
Il y aurait beaucoup d'Africains en Ukraine. Y a-t-il des risques particuliers pour eux pendant cette guerre? Est-ce que vous avez des échos venant de cette communauté?
Il y a des risques pour eux. Je ne pense pas qu'ils vont viser spécialement parce qu'ils vivent généralement dans les cités universitaires. Les étudiants, c'est pas comme ils vivent en Europe occidentale où ils vivent dans des appartements ou comme ça. Mais là, ils vivent dans les cités universitaires, les étudiants. Les nationalistes, là, je peux dire que c'est avec eux seulement que j'ai connu des petits problèmes de racisme. Et ça, c'était après l'éclatement de l'Union soviétique. Je vous dis que moi, j'ai vécu là-bas de 1986 à 1994. Donc, l'éclatement de l'Union soviétique m'a trouvé là-bas. Donc, j'ai vécu l'indépendance de l'Ukraine là-bas. Donc, j'ai vu les mouvements nationalistes monter. Présentement, ça fait quelques temps que je suis pas allé là-bas. Donc, je ne peux pas tellement permettre les risques.
Compte tenu de cette guerre en Ukraine et des tensions qu'elle engendre entre la Russie et les Occidentaux, est-ce qu'il est encore vraiment recommandable pour les étudiants africains de s'y rendre?
Bon, l'Ukraine, je pense que l'Ukraine, c'est pas, avec tout ce qui se passe, c'est pas une destination pour l'instant recommandable. Hein? Bon, la Russie n'est pas attaquée, c'est la Russie qui attaque. Donc, des villes comme Moscou jusqu'à Novosibirsk, les 11 horaires, il n'y a pas de problème là-bas, il n'y a pas de guerre civile. À part que des problèmes particuliers, particuliers. Sinon, c'est pas un problème pour les étudiants africains d'aller en Russie. Pour l'Ukraine, il y a des forces qui peuvent être menacées.
Makan Sako, ancien étudiant malien à Kiev en Ukraine, il a été joint à Paris par Mouamadou Mfa. Au Bénin, les centrales syndicales réussissent le pari de la mobilisation contre la cherté de la vie. De nombreuses organisations syndicales se sont réunies pour dénoncer la hausse des prix alors que le pouvoir d'achat s'est réduit de plus en plus. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Feradandé.
Est-ce que tout va bien dans le pays?
Trop, c'est trop. Les centrales et confédérations syndicales n'en peuvent plus de la cherté de la vie. Tout est cher, même les produits de première nécessité cultivés au Bénin. Pour Moundashiro Bachabi, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, le taux de pauvreté a atteint un niveau apeurant.
Il y a 6 ans, le taux de pauvreté était autour de 33%. Depuis 2020, il est au-dessus de 45%. En langage facile, cela signifie que sur 100 Béninois que vous prenez aujourd'hui, plus de 45 doivent essayer de vivre avec moins de 600 francs CFA par jour. Quand vous rapportez cela à l'échelle des 11 millions de Béninois que nous sommes, vous découvrez avec stupeur que le Bénin compte aujourd'hui près de 5 millions de pauvres. Ce sont là les chiffres qui montrent que la vie chère est le motif fort pour lequel vous êtes présent ce jour.
Pour l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, il faut véritablement que le gouvernement réfléchisse à une sortie rapide pour soulager les populations qui ont du mal à assurer 3 repas au quotidien. Apolline Afewi est le secrétaire général de l'UNSTB.
C'est pour dire au président de la République que véritablement ça ne va pas. Parce que lorsqu'on est au pouvoir, parfois on n'entend pas la réalité des choses. Il y a des conseillers, il y a des ministres qui disent « Tout va bien, monsieur le président. » C'est quelques-uns qui crient seulement « Ça ne va pas !» Là, du réveil, parce que nous avons accompagné le président pendant 5 ans. Il nous a demandé de serrer la ceinture. Nous avons même attaché la ceinture. Et maintenant, c'est le second mandat. Il faudrait qu'il nous aide à desserrer la ceinture.
Ne pouvant rester indifférente, les populations ont répondu massivement à l'appel des syndicats car le panier de la ménagère est vide.
On ne vend pas, on ne vend plus.
Aujourd'hui, tu viens, on te dit le poulet, le kilo, quoi là, normal. Le kilo à 1500. Tu reviens à 18h, on te dit 1700.
Est-ce que les salaires ont augmenté? Est-ce que nos revenus ont augmenté? Avec quoi on va les acheter? Donc, du coup, il y a moins de clients au marché. Il n'y a pas la vente. Les gens fuient toutes les choses de nourriture, de plus nécessité là. L'huile, le riz, le sucre, tout est devenu augmenté. Donc, on a fait quelque chose pour nous.
Sincèrement, ils n'ont qu'à nous aider. Ils n'ont qu'à nous aider. Nous sommes au Bénin.
Nous sommes des enfants des pauvres. Ils n'ont qu'à nous aider, sincèrement. Le gouvernement n'a qu'à nous aider.
Pour ceux qui n'ont pas participé à ce rassemblement, certes, la vie est chère, mais pas au point d'aller crier sur tous les toits. Pour eux, le gouvernement fait des efforts et reste conscient des difficultés que traverse la population.
Des mesures adoptées sont analysées, disséquées et verront le jour pour le bonheur de chacun et de tous. Le gouvernement fera de sorte que le panier de la ménagère soit équilibré. C'est cela ma conviction. Parce que, connaissant l'ambition que le chef de l'État a pour son pays, je suis à même de penser qu'il y pense 24 heures sur 24. Nous sommes le pays où il fait bon vivre par rapport aux autres pays de la sous-région. Vous vous rendez compte, à Abidjan, le prix du carburant est 2,5 fois plus élevé que le nôtre ici au Bénin, à la pompe. Un litre là-bas, c'est environ 2000 francs CFA, alors que nous, on le paye ici à 550 francs CFA.
Les centrales syndicales attendent la réaction du gouvernement et recommandent la prise des dispositions subséquentes pour sauvegarder le pouvoir d'achat des populations. Plusieurs autres actions sont annoncées dans les jours à venir et les travailleurs menacent de durcir le ton pour se faire entendre. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Cameroun, des séparatistes ont enlevé 10 enseignants dans une école pour enfants handicapés. Le reportage est de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé et le récit est de Nali Talani.
Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, dont WhatsApp, 10 enseignants plaident pour avoir leur vie sauve auprès de séparatistes anglophones armés. 9 femmes et un homme disent enseigner dans une école pour enfants handicapés à Ngomam, un quartier de Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest du Cameroun. L'armée a confirmé vendredi que les séparatistes ont enlevé cette semaine les enseignants vus dans la vidéo. Capo Daniel, le chef adjoint des forces de défense de ce qui est appelé l'Ombazouni, affirme qu'ils punissent les enseignants pour n'avoir pas fermé cette école publique.
Nous avons demandé de l'aide pour créer des établissements d'enseignement alternatifs afin de donner à nos enfants le droit à l'éducation, y compris les enfants handicapés de l'Ombazouni. Mais ce que nous ne pouvons pas permettre, c'est que le gouvernement de Yaoundé crée des écoles sur le territoire de l'Ombazouni et quiconque collabore avec le gouvernement camerounais sera considéré comme un traître.
Les séparatistes se battent dans les régions anglophones depuis 2017. Ils ont ciblé les écoles et les édifices gouvernementaux. Yaoundé a condamné les enlèvements, les qualifiant de dernière attaque contre l'éducation. L'école primaire bilingue de Ngomam est fréquentée par des dizaines d'enfants sourds, muets et amputés aux côtés de plusieurs centaines d'enfants. La présidente de l'Association des enseignants du Cameroun, Valentine Tamé, dit que les élèves ont trop peur d'aller en classe depuis que les enseignants ont été enlevés. Elle s'est exprimée via une application de messagerie depuis Bamenda.
Lorsqu'un groupe de séparatistes décide de continuer à harceler et à agresser les enfants et les enseignants, avec tous les effets qui s'en suivent, on peut que dire que c'est une chose vraiment triste. Nous continuons à souligner que les écoles restent des zones protégées et que les belligérants doivent rester hors des écoles.
Selon elle, depuis le début du conflit, les rebelles ont tué ou enlevé au moins 300 enseignants dans les régions anglophones. Des groupes de défense des droits affirment que les combattants des deux camps ont abusé des civils ces dernières années. Selon les Nations Unies, les combats ont fait au moins 3500 morts, 700 000 déplacés et quelque 750 000 enfants sont aussi privés d'éducation.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
She's got it all wrong, yeah. She was acting like a girl, and that girl's